Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est midi 45 et c'est la grande table d'été. Sur l'image, on voit des hommes ou des femmes, la plupart du temps dans des espaces clos. Ils posent pour le photographe, avec autour d'eux un ou plusieurs objets qui leur appartiennent ou pas. Il y a autour d'eux un contexte préparé, tout un environnement organisé et travaillé qui révèle une vie, une intimité et parfois une colère. Les rencontres de la photographie d'Arles exposent chaque été la diversité du travail des photographes vivants. En première partie de la Grande Table, rencontre avec Aurore Valade et Christophe Loiseau, deux photographes qui privilégient le portrait, la pose et le travail au long cours. En seconde partie, portrait de la romancière américaine Nicole Krauss, dont le dernier roman « Forêt obscure » paraît aujourd'hui aux éditions de l'Olivier. L'entretien a été enregistré au mois de juin lors de son passage à Paris par Maëlys Besserie. Bonjour Christophe Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous présentez actuellement votre exposition « Droit à l'image aux rencontres de la photographie en Arles ». Et bonjour Aurore Valade.
Bonjour.
Vous êtes photographe aussi et vous présentez, quant à vous, l'exposition « Révolte intime aussi en Arles ». Je vous propose qu'on commence par un dialogue.
Tu vois Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler absolument normalement. Vous pouvez essayer ?
Moi, je crois que je n'aurai pas mal de difficultés.
Pourquoi ?
Parce que je suis un peu intimidée.
Vous êtes intimidée par quoi ?
Je suis intimidée parce que... à un moment donné, il faut être prêt, puis je ne suis pas forcément...
En ce moment, vous n'êtes pas intimidé.
Non, tout de suite, là, non.
Bon, alors, vous n'êtes pas intimidé maintenant. Ce que nous vous demandons, avec une grande ruse, Morin et moi, c'est simplement de parler, de répondre à nos questions. Si vous dites des choses qui ne vous plaisent pas, il est toujours temps de couper. Donc, vous n'avez pas à être intimidé.
Non, mais je suis moi maintenant tout à l'heure parce que j'ai pas été attaquée de front, je crois.
C'est ce brigand, là.
Oui.
Bon, alors, vas-y, moi, attaque.
Bon, j'attaque quand même, écoute. Oui. Tu ne sais pas les questions qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus ce qu'on veut faire avec Rouche. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu ? Oui. Comment vis-tu, ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie ?
On entend les voix de Jean Rouch et d'Edgar Morin dans le film Chronique d'un été, sorti en 1961, où les deux documentaristes posent des questions à Marceline, et ils rencontrent Marceline, et ils veulent lui poser cette question-là, comment vis-tu ? Vous, dans vos deux travaux, Christophe Loiseau et Aurore Valade, cette question est centrale, c'est-à-dire que les modèles que vous photographiez, vous faites des entretiens avec eux, qui précèdent le travail de la photo elle-même. Comment se passe cet entretien-là ? Christophe Loiseau.
C'est un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire là, ce qui est surprenant dans cet extrait, c'est que c'est qu'elle est intimidée par l'entretien. Et j'ai le sentiment que l'entretien qu'on organise est fait pour justement que les gens qu'on va photographier ne le soient pas. C'est-à-dire qu'il est très difficile de réaliser des portraits parce que les gens sont toujours un peu perdus face au photographe. Le photographe à un objet qui le protège, l'appareil photo. On est derrière notre appareil photo. Et la personne qu'on photographie, souvent, est démunie. Et donc l'entretien est là aussi pour le rassurer, pour rendre plus simple cette relation. Et d'ailleurs, lors de cet entretien, il n'y a pas d'appareil photo. Moi, je n'ai pas d'appareil lors du premier entretien. Il y a toujours un entretien préalable qui se déroule parfois plusieurs mois avant la prise de vue, mais c'est un temps où on pense ensemble à la réalisation de cette image et on cherche le déclic. On cherche un peu comme dans la photographie instantané, on cherche à produire ce déclic, on cherche à trouver l'idée, une image, c'est une idée, donc il faut ensemble la découvrir.
Or, voilà, de vous, dans vos entretiens avec les sujets, quel genre de questions vous leur posez ?
Bien justement, je suis ravie que vous ayez passé cet extrait, puisque justement pour moi, ça a été ce film de Jean Rouch et d'Edgar Morin a été un déclic fondamental dans ma manière de travailler. Je suis partie au final, finalement, les mêmes questions. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment on habite le monde et comment on se débrouille avec la vie. Ça fait vraiment, c'est vraiment la question centrale.
Comment vivez-vous ?
Voilà, comment vivez-vous ? Que je pose aux gens. Et moi, c'est vraiment dans la manière dont Edgar Morin et Jean Rouch travaillent, c'est vraiment, je me pose les mêmes questions. Eux-mêmes se mettent en scène, en fait, dans le film, et ils demandent, ce qu'ils disent au début, c'est « je ne sais pas si nous y arriverons ». Et c'est cette grande question que je me pose moi-même, quand je suis face aux personnes, j'avoue que moi-même, je ne sais pas si j'y arriverai.
Si on est dans vraiment une photo à la fin.
Voilà, on est dans un dialogue, dans une conversation, et moi-même, en fait, je suis intimidée. En fait, c'est peut-être ça aussi qui équilibre la relation, c'est que quand j'arrive, je suis aussi intimidée que la personne. Donc finalement, on se regarde et on finit par en rire. Et petit à petit, là, la relation peut se construire.
Et quand est-ce que vous vous dites qu'il y a une photo qui est possible ? C'est au bout d'un certain temps d'entretien ? Comment ça fonctionne ?
Il s'agit toujours d'un déclic, il s'agit toujours de... On fabrique ensemble des images mentales, un peu comme quand on parle. On a souvent recours aux images pour mieux dire ce qu'on voudrait dire. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la personne, moi, je ne cherche pas à produire nécessairement l'idée. Parfois, l'idée, elle est là. Elle est sur la table. Il suffit juste d'être à l'écoute. Et puis, à un moment, la personne prononce une phrase, évoque un souvenir, donne une idée, et puis vous êtes là, et vous la saisissez, vous vous dites c'est ça qu'on va faire. Alors après, il faut rendre cette image possible, c'est un autre processus, mais il y a un déclic. Comme en photo, il y a un déclic, quoi. Moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois, c'est que on finit toujours par produire ensemble une image. Et ce qui est fascinant, c'est de savoir qu'on repart peut-être à chaque fois avec une image différente. Mais on sait quel va être le contexte, on sait quel dispositif on va mettre en œuvre, et puis on a défini le lieu, Moi, j'utilise beaucoup des objets parce que c'est ça aide aussi les personnes que je photographie à se protéger, tout comme je le suis par l'appareil photo. Et puis un objet, ça se manipule, ça peut devenir... c'est intéressant pour un photographe d'avoir cette matière-là.
Comment il fonctionne ce choix des objets ? C'est en discussion aussi avec les personnes ?
C'est essentiel, bien sûr. C'est parfois... on est à la recherche d'un lieu, mais on peut être aussi à la recherche d'un objet. C'est un objet qui va rendre possible une situation. Par exemple, cet homme qui est photographié en prison à Arles, qui disposait, lorsque je l'ai rencontré, il voulait que je le photographie dans sa maladresse. Donc j'ai fait entrer en prison 80 assiettes. Et puis l'idée, c'était de produire, vous voyez, cette maladresse, un petit peu cette image simple d'un homme qui trébuche et qui laisse tomber une pile d'assiettes. Et puis on s'est rendu compte que ça n'avait aucun intérêt, en fait, c'était juste anecdotique. Et puis on s'est trouvé avec 80 assiettes au sol cassées, et on s'est dit, voilà une matière, voilà quelque chose dont on va pouvoir se servir. Mais au départ, voilà, il s'agissait d'assiettes. Et dans tous les cas, il y a toujours un objet qui nous aide. Et parfois, on l'abandonne, cet objet. Mais ça rend plus simple la prise de vue. Ça équilibre la relation que je peux avoir avec les gens que je photographie. Puis surtout, ça transforme le temps de cette prise de vue en jeu. C'est-à-dire qu'on se sert de cette matière-là pour jouer. Voilà. Puisque... Moi, je compare toujours un peu ça un petit peu à ce qui peut se produire à l'improvisation au théâtre. Vous voyez, vous mettez en place une situation et puis vous la laissez se produire. Et puis vous êtes là à essayer de saisir l'accident. Vous voulez saisir ce qui va se disloquer. Vous voulez saisir le, le hasard malgré tout, parce que sinon ce ne serait pas de la photographie, ce serait de la communication. On fabrique à l'image qu'on a déjà en tête. Non, c'est, le hasard interfère, mais il interfère dans une sorte de relation ludique avec, avec la personne photographiée.
Vous, Aurore Valade, est-ce qu'il y a aussi une dimension ludique dans votre rapport?
Complètement. Elle est d'ailleurs essentielle, en fait. Elle est fondamentale. Le dispositif que je mets en place, il est là pour créer un espace de jeu dans lequel on va pouvoir créer un espace artistique, où chacun va pouvoir s'exprimer artistiquement. Et s'il n'y a pas cet espace de jeu qui va rompre la norme d'usage d'un espace habituel, toi, dans ton cas, Christophe, c'est la prison qui est un espace extrêmement normé. Moi, c'est l'intérieur de l'habitation qui a ses propres normes d'usage. Tout d'un coup, tous les deux, on va rompre cette norme pour créer un jeu nouveau avec des différentes règles. Et pour moi, c'est fondamental et c'est là où il se trouve l'espace artistique.
Qu'est-ce que le contexte justement des photos que vous prenez, c'est-à-dire le contexte qui entoure les personnages, dit d'eux ?
Oh, le contexte raconte beaucoup de choses. Pour moi, il est essentiel, en fait, puisque je trouve que, justement, je construis un portrait qui se révèle à travers le contexte, mais le contexte aussi est menteur. Il faut toujours se méfier. Moi, je me méfie énormément, en fait, des images. Et c'est pour ça qu'aux images, peut-être, je rajoute des mots, je rajoute des paroles, et je construis l'image comme un palimpseste, pour pouvoir la complexifier, pour pouvoir l'opacifier. Le complexe révèle, à la fois, et voile. Et c'est à la fois ce voilement et ce dévoilement qui m'intéresse dans l'image.
Vous, Christophe Loiseau, une des particularités de votre travail, oui, c'est que Aurore Valade vient de l'évoquer, c'est que vous travaillez avec des détenus. Comment cette rencontre a eu lieu ?
Là, j'ai fait un travail avec des détenus. Hein. Je ne fais pas ça.
Oui.
C'était la première fois
que j'ai fait
ce projet autour de la prison. Et bien évidemment, là, le contexte, il est tellement fort que j'ai tout de suite posé comme condition que ça ne soit pas le sujet. C'est-à-dire.
De ne pas montrer
l'objet
la prison.
L'objet prison n'est pas le sujet. C'est, bien sûr, on ne peut pas l'effacer, mais j'ai tout fait pour que ce ne soit pas là le seul contexte. Et c'est ce qui a fait que les détenus m'ont accompagné dans ce projet, puisque j'ai 40 détenus qui ont participé de ce projet sur 135, c'est beaucoup. Et ils ont tout de suite senti qu'on n'allait pas les présenter comme étant des détenus. C'est un contexte tellement fort qu'il est assez simple de produire des images ayant cette force. Mais là, le contexte, on a essayé de le dépasser et on a essayé de le fictionner. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre, par exemple, dans ce qu'on appelait auparavant le QHS pour faire des images.
Donc
la prison, le quartier d'eau de sécurité, donc la prison de la prison. Et j'y suis allé avec l'intention de fictionner le réel que j'y photographiais. Et donc les personnes que j'y ai photographiées, l'une d'elles avait eu le désir c'était son intention au départ. Il voulait que je la présente se protégeant de la prison. Donc je lui ai proposé d'être photographié dans une armure. Et donc vous avez là un contexte particulier et puis une demande qui l'est également, puisqu'il faut faire entrer une armure dans une prison sécuritaire, et en plus de faire l'image dans le quartier de haute sécurité. C'est totalement fou, mais chacun a compris les enjeux d'une telle image. Et pourquoi on avait choisi celui-là. Et le contexte fonctionne, mais le contexte fonctionne autrement que si j'avais pu photographier, et d'ailleurs je n'aurais pas pu le faire, j'aurais jamais pu photographier un détenu dans cette cour du QHS, c'est totalement impossible. Mais là, le contexte, j'ai essayé à chaque fois de le transformer pour en faire un lieu de fiction. Et la prison m'y a aidé en quelque sorte parce que je me suis j'ai toujours essayé de ne pas faire voir la prison telle qu'elle était. On n'y échappe pas, elle revient malgré tout, même si on essaie de ne pas la photographier, elle est toujours malgré tout présente, mais c'est pas l'objet, et le détenu n'y est pas enfermé dans cette image.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on associe souvent la photographie avec l'idée d'instantané, c'est-à-dire de prendre, saisir un moment. Et là, dans le cadre de vos deux travaux, on est face à des œuvres qui sont extrêmement travaillées, posées, je le disais en introduction. Est-ce que ce travail de pose et de préparation ne réduit pas justement la dimension instantanée de la photo ? Aurore Valade.
Non, bah, pour ma part, pas du tout, puisque, et même c'est ce dont on parlait avant avec Christophe, c'est qu'on met en place un dispositif. Et tout d'un coup, on attend aussi que quelque chose surgisse. Parce que justement, il y a cette dimension du jeu. Et justement, le jeu est bien joué. Si on ne sait pas quel va être aussi le jeu de l'autre, on découvre en faisant le jeu. Donc en fait, c'est toujours une découverte, c'est toujours une surprise. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit. Il y a quelque chose qui surgit et on ne sait pas ce que ça va être. Et c'est toute cette question aussi de la présence de l'autre. L'autre qui, tout d'un coup, va nous amener à la déroute. En effet, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est toute la surprise du dispositif photographique aussi que je mets en place avec la participation de l'autre, justement. Je propose un espace ludique, mais dans cet espace-là, tout est possible.
Qu'est-ce qui a pu vous surprendre, par exemple, concrètement, dans une des photos que vous avez prises ?
Oh, ce qui a pu me surprendre c'est toujours des surprises.
Ça peut être un geste,
oui, oui, ça peut être un geste, ça peut être aussi le fait de pas prendre la photo, de venir pour faire une photo et puis de passer toute la journée autour d'une table, autour d'un repas, finalement à continuer la discussion alors qu'on pensait avoir déjà discuté suffisamment la veille. C'est continuer cette discussion, ne pas faire la photo et puis revenir le lendemain et puis ne pas faire la photo et puis finalement la faire le troisième jour. Donc c'est ce temps qui s'écoule, d'abord à vivre, à discuter, à rire, à manger, à partager un moment autour d'une table. Ça c'est quelque chose de très important qui est en amont de la photo, et des fois la surprise c'est que finalement la photo elle ne se fait pas.
Vous Christophe Loiseau, parmi les éléments de surprise.
Moi c'est toujours l'engagement des gens que je photographie, parce que voilà, l'enjeu c'est de produire une image, un portrait, il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de couverture de magazine au bout de ce chemin-là. C'est juste l'envie de réaliser une image. Et moi, je suis toujours surpris de l'engagement des gens que je photographie, parce que parfois, je les mets dans des situations assez inconfortables et ils s'en plaignent jamais. C'est jamais de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on a ce désir ensemble de fabriquer une image et de ne rien lâcher. En règle générale, moi, je suis obstiné. Je peux. C'est plus facile pour moi parce que je suis pas dans leur inconfort parfois. Mais je sais que ce désir, on le partage. On partage cette énergie, cette envie de produire une image, et on a la même satisfaction lorsqu'on arrive au bout du processus. Alors que moi, je n'ai rien promis d'autre que de leur donner une image, de leur donner un tirage papier de cette photographie qu'on a fait ensemble.
Et quelle réaction ils ont pu avoir à l'image finale ? Quel type de réaction vous avez ?
Alors, c'est très différent en fonction des contextes. Là, bien évidemment, en prison, c'est quelque chose. Il faut savoir qu'en prison, ils n'ont pas d'image d'eux-mêmes. Donc moi, je suis entré cet atelier s'est mis en place autour de cette possibilité qu'il y avait de réaliser des portraits d'eux. C'était l'intention initiale, de produire des images, des portraits. Mais ils n'ont pas de photos d'eux-mêmes. Donc déjà, il y avait cette première relation à leur image. Ils n'ont pas de miroir, ou alors ils ont de petits miroirs en prison, mais ils n'ont pas de miroir. Et moi, je pouvais leur montrer une image d'eux-mêmes. Cette image-là, ils pouvaient la communiquer à leurs proches, mais c'était la première surprise. Et après, moi, j'étais assez étonné de voir tout ce que ça, tout ce qui se jouait. Comment ils lisaient les images, comment ils les ressentaient, comment ils les avaient fabriquées. À tel point que, à un moment, j'ai eu le sentiment que ils avaient fabriqué l'exacte image qu'ils voulaient donner d'eux-mêmes. Alors que c'est faux, on sait très bien que tout ça, c'est un déduit au hasard et qu'on n'avait rien décidé au départ. Mais voilà, je les avais touchés à cœur et j'avais prouvé quelque chose.
Il y avait une forme de vérité qui sortait de l'image.
C'est une forme de vérité. Il ne faut peut-être pas utiliser ces grands mots-là, c'est plus simple que ça. Mais voilà, il s'agissait d'un portrait d'eux. Voilà. Juste.
Et vous, Aurore Valade,
oui,
parmi les surprises
juste, oui, pour rebondir sur la surprise, justement. C'est pas tant l'image, en fait, qui constitue la surprise, c'est l'acte, en fait. C'est l'acte photographique, en fait, l'action mon travail, je le conçois avant tout comme une performance avant d'être une photographie. Il y a d'abord une action, qui est notamment dans le cas de ces dernières séries que j'expose à Arles, un déplacement de la manifestation dans l'espace de l'habitation. C'est-à-dire que à partir de conversations, j'invite les gens à manifester chez eux. Donc ensemble, on va fabriquer des pancartes qu'on va mettre en scène dans l'espace. Et ça déjà, c'est un acte artistique. C'est vraiment un déplacement d'un espace d'affirmation, de liberté d'expression. Et cet espace-là, en fait, il est plein de surprises. Et une des surprises que j'ai eues, c'est que justement, cette mise en scène qui a été réalisée, cette action, elle est venue ensuite contaminer le réel. Donc elle est complètement fictive, mais elle est venue contaminer le réel, puisqu'à la fin donc, du coup de l'action, donc de créer la manifestation, les pancartes, et les mettre en scène dans l'espace, à la fin, les gens ont voulu garder les pancartes, puisqu'à chaque fois je leur demande « est-ce que vous voulez les garder ?» Donc ils continuent, certains les gardent chez eux en tant que décoration, et d'autres personnes m'ont dit qu'ils les gardent au cas où il y a une manifestation et que ça puisse leur servir. Donc en fait, ce qui a été conçu artistiquement de manière fictionnelle peut rentrer et contaminer le réel.
Ça peut devenir leur objet.
Voilà. Et donc du coup, c'est là où pour moi, c'est aussi une grande surprise. Et pour moi, c'est aussi, ça fait partie du projet artistique, ça fait partie du processus.
Actuellement, quand on dit révolte, on pense surtout au sens politique d'une contestation des normes politiques et sociales. Et ce qui vient à l'esprit en premier, c'est la révolution. La révolution française, la révolution russe, tous les grands soulèvements. Et on pense aussi à la révolte des étudiants.
Les grandes révolutions bourgeoises, donc.
Les bourgeoises ou prolétariennes, mais aussi la révolte des étudiants de mai 68, la révolte des lycéens. Eh bien, chacun a zinzin à sa façon. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'étymologie. Et si on se penche de ce côté-là, on constate que le mot révolte remonte à une racine sanscrite, qui est la racine vel, qui veut dire découvrement, retournement, dévoilement. Et j'ai voulu, par-delà ce sens politique, réhabiliter cette valeur profonde de la révolte qui est la remise en cause. Remettre en cause tout, soi, Dieu, l'autre, le sens de la vie, etc. Et par extension, remise en cause des pouvoirs politiques. Mais je pense que l'ampleur de la révolte pourrait être beaucoup plus vaste.
C'est la voix de Julia Kristeva, une archive de France Culture de 1998. Vous, Aurore Valade, c'est quelqu'un qui vous a marqué. Et votre exposition « Révolte intime » part de ces réflexions de Julia Kristeva sur la question de la possibilité d'une révolte qui vienne non pas de la grande masse politique, mais plutôt de l'intimité. En quoi ça a donné lieu pour vous? Il y avait un rapport évident avec la photographie.
Oui. Déjà, je... Personnellement, donc merci d'avoir passé cet extrait de Julia Kristeva. Pour moi, sa pensée est fondamentale pour penser justement la révolte aujourd'hui. Et aussi, je crois profondément que si on ne se révolte pas au niveau personnel et au niveau intime, c'est impossible ensuite de penser le commun. Donc pour moi, dans mon projet artistique, j'ai voulu rencontrer des gens qui me racontent des fragments de vie personnelle. Comment au quotidien il se débrouille,
voilà. Pouvait avoir lieu.
Comment au quotidien ça pouvait avoir lieu dans des petites choses, dans leur résistance personnelle et qui me racontent des histoires très intimes. Et comment ces histoires justement intimes vont être témoignées de leur engagement politique.
Vous, Christophe Loiseau, la dimension politique aussi, elle apparaît rien que dans le titre de votre exposition, puisqu'elle s'appelle « Droit à l'image », et que ça pose la question que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, mais celle d'un possible droit à l'image, notamment pour les détenus.
Bah, c'est toujours... ce droit à l'image, c'est le droit d'avoir une image, le droit d'avoir une image de soi qui n'est pas celle, par exemple un détenu, on a des images préfabriquées de qui ils sont, mais c'est pas de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on a droit à une image tout comme n'importe quel individu. Oui, c'est ce droit-là qui s'exerce, mais
j'ai trouvé que la politique aussi passait dans vos photographies par une forme de, alors qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, mais par quelque chose qui relève de la colère. Il y a une espèce de colère rentrée dans vos photos. Et qui est d'une certaine manière politique.
Oui, il s'agit de leur colère qu'ils expriment de façon assez douce, parce que les images. Enfin, il n'y a pas cette colère, elle est rentrée. elle n'est pas pleinement visible. Mais c'est évident que il y a un cri qu'on leur donne la possibilité de pousser. Et puis certaines des images, elles fonctionnent aussi. Moi, c'est ce qui m'a surpris à Arles, c'est de voir que les gens n'y voyaient pas seulement des détenus emprisonnés, mais qu'ils y voyaient aussi une relation avec le temps dont ils disposaient. C'est-à-dire qu'on a des détenus qui sont emprisonnés, qui là, s'il s'agit d'une prison sécuritaire, donc les détenus y sont pour de nombreuses années, et que les gens qui voyaient ces images-là voyaient aussi le temps qu'ils partageaient avec ces détenus. Il s'agit du même temps. Vous voyez, c'est un temps partagé. Et à partir de là, ça fonctionnait aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous êtes libre, vous êtes face à quelqu'un qui ne l'est plus. Et donc, ça vous renvoie à ce temps dont vous disposez. C'est possible, dont vous êtes responsable.
Vos deux travaux photographiques donnent aussi à voir des images qui sont, entre guillemets, chargées. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'éléments, et notamment des éléments énigmatiques qui peuvent relever soit du slogan pour vous, Aurore Valade, soit chez vous, Christophe Loiseau, des objets. On parlait des assiettes cassées tout à l'heure. Est-ce que dans votre travail, il y a l'idée de créer une énigme, ou en tout cas de créer une image qui soit travaillée ?
Ah oui, oui, absolument, oui, c'est... Il faut que chaque objet qui soit présent dans une image, mais chaque détail d'une image soit pensé. Après, ça nous échappe, hein. On n'est pas maître de tout, mais il faut que tous ces... On a du temps pour fabriquer une image, donc il faut mettre ce temps-là à profit pour essayer de comprendre ce qui se joue dans une image et le pourquoi de la présence d'un objet. C'est comme au cinéma, quoi. Si vous arrivez avec un pistolet, ça fabrique forcément du sens, de l'action. Et là, il s'agit de la même chose. On ne peut pas amener un objet comme ça sans qu'il produise du sens et du questionnement.
Vous, Aurore Valade, sur cette question de l'énigme.
Oui, pour moi, c'est quelque chose qui est très très important, en fait. Mes images, elles sont vraiment construites comme des énigmes sous forme presque de palimpseste, en fait, sous forme de strates. Et pour moi, c'est très important, en fait, cette idée de créer une opacité qui, à la fois, qui dévoile une partie des choses et qui, en même temps, les cache. Pour moi, justement, quand les choses elles sont trop évidentes, ça devient presque suspect. Donc je cherche à redonner de l'opacité aux choses et aux gens même que je rencontre, pour éviter justement à les faire tomber dans les stéréotypes. C'est très difficile de faire un portrait. Donc pour moi, c'est très important de redonner de l'épaisseur à ce portrait, et qu'il soit complexe. Et en créant cette saturation dans l'image, cette saturation de signes aussi, j'oblige le spectateur à devenir lecteur de l'image, à regarder tous les détails, à rentrer dedans. Donc du coup, le regard n'est pas passif, il est au contraire très très actif, il doit vraiment révéler l'image. Donc le spectateur doit avoir justement cette action pour révéler l'image, sinon il ne voit rien, puisque l'image est tellement complexe, tellement chargée, qu'on ne voit rien. Et c'est vraiment une stratégie de voilement, dévoilement qu'il y a dans mon travail.
Est-ce que vous diriez tous les deux que le portrait est un art difficile ?
Oui, il est difficile parce que on a une forme de responsabilité. Parfois, avec certaines personnes, il y a une responsabilité du photographe parce que les gens que je photographie s'engagent pleinement. Après, c'est des petites choses, mais en même temps, il y a cette part de responsabilité de correspondre à l'idée qu'ils se sont faites de l'image qu'on allait produire ensemble. Donc, il ne faut pas qu'ils soient déçus quand ils repartent. Il faut qu'il y ait au bout de ce jeu, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse nous convaincre qu'on n'a pas perdu notre temps, quoi. Mais c'est très difficile le portrait. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. C'est tellement incroyable de pouvoir passer du temps avec des gens que vous ne connaissez pas. On fait ce métier-là aussi pour ça, c'est-à-dire que quelle était ma chance de rencontrer la plupart des gens que j'ai rencontrés sur les différentes séries que j'ai réalisées. Quelle était ma chance d'appréhender le temps qui fait le temps traversé par les détenus en détention. Quelle était ma chance de rencontrer tous ces gens que j'ai pu avec qui j'ai pu produire ces images. C'est là où C'est là notre chance.
Oui. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une chance de faire des portraits, c'est une chance de rencontrer ces personnes-là. En fait, la question, non, c'est pas de faire du portrait, mais finalement, c'est la rencontre. C'est la question de la rencontre et du temps partagé. Et c'est pour ça que je fais donc, des portraits, enfin des rencontres en tout cas.
C'est des opportunités d'ouverture. C'est pour ça qu'on fait tout pour que ce temps-là dure. Mm. C'est-à-dire, on pourrait produire des images dans une sorte de des sortes d'instantanés magiques où on produit un petit théâtre, on y met de la lumière et puis c'est comme un piège et puis la personne passe dans notre petit théâtre et puis on réalise cette image-là et puis voilà, puis c'est les choses sont alors on peut avoir produit une belle image, mais moi j'ai l'impression que un portrait doit être juste. Et c'est là où se joue notre engagement de portraitiste, c'est de réussir à voilà produire une image juste. C'est pas une belle image, ça n'a aucun ça moins d'intérêt, je trouve.
Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver votre exposition Christophe Loiseau, Droit à l'image, à la Maison Centrale d'Arles et à Croisière jusqu'au 23 septembre. Révolte intime, votre exposition Aurore Valade, c'est au musée départemental Arles Antique jusqu'au 26 août. Et je signale la publication Révolte intime aux éditions Asymmetricas. France Culture, il est 13h18, on écoute un extrait de l'album Prière de Yom, sorti cette année sur le label Bouddha Musique, avec Baptiste Florian Marle Ouvrard à l'orgue. Ils seront en concert pour la Nuit Blanche le 10 octobre à la Philharmonie de Paris. Et le 26 août, dans le cadre du Festival des Carrières Saint-Roch à Luzarc, dans le Val d'Oise. Tout de suite, on retrouve Maïlys Bessery pour un entretien avec la romancière américaine Nicole Krause, qui publie aujourd'hui Forêt Obscure aux éditions de l'Olivier.
Imaginez une forêt obscure refermant les histoires de Nicole, de Jules Epstein et des fantômes qui les accompagnent. Imaginez un livre où la mémoire inonde le présent et où les échos de deux vies finissent par se rejoindre. Imaginez un auteur qui poursuit religieusement l'ouvrage entamé par ses maîtres. Et vous aurez Nicole Krause, aujourd'hui l'invitée de la grande table d'été. Nicole Krause, bonjour.
Good morning.
Alors, dans ce livre Forêt obscure, vous avez choisi d'utiliser ce titre que vous avez découvert dans l'œuvre de tante, mais aussi dans un taxi à Jérusalem.
Well, the title came after a long search and
oui, le titre m'est venu après beaucoup de recherches et j'avais imaginé beaucoup d'autres titres auparavant. Mais lorsque le livre était déjà écrit, terminé, ce n'est que là, à un moment donné, que cette citation de Dante m'est revenue. Je n'avais pas relu L'Enfer depuis l'université et ces quelques premières lignes me sont revenues. Et je savais qu'elles convenaient parfaitement à ce livre. C'est un livre qui parle de se perdre dans une forêt sombre au sens littéral et figuré, bien sûr. Et ça traite du rejet de la voie droite. Et ça évoque le fait de se tourner vers ce que la forêt a toujours symbolisé, tout ce qui est inconnu, mystérieux.
And giving in to allowing oneself to be lost in that.
Et ça parle aussi de s'autoriser à se perdre dans cette forêt sombre.
Alors vos personnages, ils se perdent chacun à leur manière et on retrouve, Nicole Cross, un procédé qui vous est familier mais que vous avez peut-être poussé à son extrême. Les histoires en écho, deux histoires en écho, qui finalement se recouvrent un peu autour d'une quête, alors une quête existentielle, mais qui est aussi une sorte de charnière de vie.
Yes, I mean, look, there's no novel that exists in which the characters don't change.
Oui, vous savez, il n'y a pas de roman où les personnages n'évoluent pas, ne se transforment pas. Sinon, il n'y aurait pas de roman. Il y a toujours une transformation. Mais en même temps, je voulais écrire un livre qui porte sur cette intensité qu'éprouvent les personnages. Ils se retrouvent à un moment charnière, en effet, de leur vie. Et ils n'ont plus de choix. Ils doivent quitter l'ancien monde, ce qui leur était familier, et sauter dans l'inconnu, sauter dans l'informe. Mais là, c'est aussi la possibilité d'un véritable changement qui va les aider à avoir une vie plus authentique.
Alors, la métamorphose de Nicole, d'un côté, hein, cette écrivain américaine, et de Jules Epstein, de l'autre. Peut-être on pourrait commencer par raconter le début de leur histoire pour comprendre le cheminement qu'ils font dans ce livre Forêt obscure. Nicole Cross.
Yeah, of course.
Oui, bien sûr.
Well, Epstein's story, which opens the book,
alors, l'histoire d'Epstein, le livre s'ouvre sur sa disparition. Et il disparaît, ça surprend tout le monde, car c'était un homme extrêmement présent de la vie de tous. Il était posé, sûr de lui. Il avait une grande autorité naturelle. Il était plus grand que la vie. Et il avait une présence physique, matérielle. Il était riche. Il était très posé, ancré dans la vie, alors que cet homme cesse d'exister, enfin disparaît, se volatilise sans laisser de traces, ça crée un mystère au début du livre. Et puis petit à petit, on découvre des choses sur lui. On comprend qu'il en est arrivé là, parce qu'il y a cette question qu'il taraude tard dans sa vie, à 68 ans, mais au lendemain de la mort de ses parents, et puis il se sépare de sa femme. Et tout à coup, il se pose la question, et si je m'étais trompée? Et toutes ces certitudes sur lesquelles j'ai bâti ma vie, si elles étaient erronées, si elles étaient fausses, et qu'est-ce que j'ai négligé? Et il commence à se défaire de toutes ses possessions matérielles pour se tourner vers, disons, un royaume spirituel, faute d'un autre mot pour décrire cela. Et puis il décide de partir en Israël avec le peu qui lui reste de sa fortune personnelle. Et il veut essayer de faire quelque chose là-bas en mémoire de ses parents. Et c'est là qu'on reprend son histoire.
Alors vous parlez, Nicole Cross, de transformation. Il y a un auteur auquel on pense tout de suite à propos des métamorphoses et qui est un auteur qui est une sorte de parrainage complet du livre. On retrouve ce fantôme d'écriture qui devient un nouveau personnage sous votre plume aussi, c'est celui de Kafka. Alors la transformation de ces personnages, est-ce que c'est une transformation kafkaïenne?
Kafkaïenne.
You know, there's We were talking about titles before.
Oui, on évoquait le titre du livre, la quête d'un titre. Eh bien, un des titres que j'avais envisagé au départ, c'était un mot en hébreu qui s'appelle Gilgul. Le mot Gilgul, en hébreu, veut dire une roue, un cycle, quelque chose qui tourne, mais ça signifie aussi la transmigration de l'âme. Et ce qui me fascine dans ce mot Gilgul, qui apparaît à plusieurs reprises dans le livre, c'est que dans la traduction, tant en hébreu qu'en yiddish, la traduction de la métamorphose, justement, ça s'appelle Gilgul, en hébreu et en yiddish. Alors ça fait écho en moi. Est-ce que ça veut dire, c'est que selon la lecture juive de cette histoire de Kafka, il ne s'agit pas uniquement d'une métamorphose physique, mais c'est la métamorphose d'une âme. Et ça, c'était un fil rouge tout au long de ce roman. Bien sûr, je ne parle pas directement de transformation, mais plutôt au sens spirituel.
La transformation, c'est une sorte de quête, alors une quête religieuse, spirituelle, puisque vous parlez aussi de l'identité juive et de ces cultures, entre la culture juive new-yorkaise qui parfois se heurte à cette culture israélienne, et la quête de l'écriture, qui en réalité sont un peu des quêtes imbriqué en ce qui vous concerne, Nicole Cross.
Yeah, I mean, I would make the distinction that I, although this book uses Jewish materials or
même si je me sers de matériaux juifs, d'idées, de concepts philosophiques qui émanent du judaïsme, moi je ne qualifierais pas ce livre de religieux. Il ne s'agit pas d'orthodoxie. Mais vous savez, quand la spiritualité est trop canalisée et se résume à des règles qu'il faut suivre, ça ne m'intéresse pas, l'orthodoxie. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est de creuser tout ce qui touche à la liberté spirituelle. Et cette quête que nous menons tous, qu'on en ait conscience ou pas, je crois, c'est-à-dire qu'on aspire à toucher l'infini, à aller au-delà du monde fini, de ce que nous percevons avec nos sens, de la réalité qui nous maintient dans une existence trop étriquée. Je crois qu'on a soif de cet infini.
Nicole Cross, en Forêt obscure, comme dans plusieurs de vos livres, il y a comme une sorte de surprise d'être devenu ce que l'on est, comme si il y avait eu toutes ces vies parallèles que l'on aurait pu mener, ou comme si la vie nous avait menés sans qu'on s'en rende vraiment compte.
I think that we do have this, we're aware of this potential for all of our
lives. Je crois en effet que on a conscience que il y a ce potentiel de mener ou d'avoir mené plusieurs vies. Et si on en prend conscience ou si on y réfléchit, on sait que notre vie aurait pu bifurquer à gauche plutôt qu'à droite, qu'on aurait pu devenir quelqu'un de différent, que notre vie aurait pu se dérouler totalement différemment. Et toutes ces vies dans l'ombre, ces vies fantômes, elles coexistent, elles continuent d'habiter avec nous, je crois. Et la question, c'est à quel moment dans notre vie on peut se permettre de bifurquer, de changer de direction? Est-ce qu'il y a un moment dans la vie où on arrive où c'est trop tard pour changer, ou est-ce qu'il n'est jamais trop tard?
L'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut mener toutes ces vies-là en même temps, d'une manière ou d'une autre. Je vous propose d'écouter Philippe Roth. C'était dans un entretien avec le journaliste David Remnick. C'était diffusé sur la BBC 4 le 19 mars 2003.
The problem for most seriously ambitious writers.
Le problème qui se pose aux écrivains véritablement ambitieux, c'est de réussir à rapprocher dans l'écriture l'expérience de la conscience. Pensez à la manière dont les auteurs s'y sont pris. Henry James, James Joyce, Ernest Hemingway. Lorsque l'on pense à ces trois auteurs, on se rend compte qu'ils ont adopté des approches fondamentalement différentes pour répondre à ce problème. C'est le problème de l'écriture romanesque, c'est la question centrale de la fiction. Et si on parle de fiction, ce n'est pas parce que la fiction invente des événements, mais bien parce qu'elle invente des formes de conscience. En ce qui me concerne, je me considère comme une espèce de ventriloque. le ventriloque de Zuckerman.
Alors, est-ce que c'est cette invention de la conscience que vous cherchez, vous, dans la fiction, une conscience que vous auriez creusée à travers vos personnages depuis votre premier livre, Man Walks Into a Room, jusqu'à l'histoire de l'amour, la grande maison et aujourd'hui la forêt obscure?
C'est tellement bien dit que je n'ai rien ajouté, hormis peut-être qu'il y a aussi le désir d'élargir sa conscience, sa prise de conscience à travers la littérature. Et de briser toutes ces conventions, ces carcans qui mènent nos vies et qui nous permettent de nous définir habituellement. Quand on pense à tous ces écrivains que cite Philip Roth, ils ont fait exploser toutes les notions, toutes les idées qu'on avait sur la manière de penser, par exemple. Non seulement ont-ils réussi à intégrer la prise de conscience dans une histoire, mais ils réussissent à altérer cette conscience, à la faire évoluer. Et c'est vrai que la conscience humaine depuis James Joyce est différente à cause de ça.
Alors vous, votre manière à vous, Nicole Cross, d'ouvrir le champ des possibles, c'est de créer toujours un double récit où les personnages sont dans le présent mais convoquent toujours la mémoire collective qu'ils portent en eux, dont ils ne peuvent se débarrasser, où ils sont là en compagnie de leurs ancêtres, où il y a à la fois un vieil homme et une jeune fille.
Yes, I mean, there. These are characters that are, in a sense, straining against their past.
Oui, je crois que ce sont des personnages qui se débattent sur la voie qu'ils ont empruntée. Ils ont tous deux conscience qu'ils ont été formés par des milliers d'années d'histoire. Que toute cette histoire les a façonnés et en même temps ils veulent se débarrasser de ce fardeau, de ce poids. Prenez le personnage de Jules Epstein par exemple. À un moment donné, il apprend que peut-être son nom remonterait à l'époque du roi David. Et d'abord, ça le fait rire, il se dit c'est impossible, Epstein, c'est un nom qui vient du Shtetl. Mais petit à petit, toute cette histoire, vous voyez comme le font les mythes et les histoires qui sont importantes pour nous. Eh bien, cette histoire crée un sédiment dans son esprit et commence à éclairer toute la manière dont il se ressent. Et David, le roi David, qui était-il? Eh bien, il était très aimé, mais il était brutal, manipulateur. C'était une sorte de seigneur de guerre. Mais dans la psyché juive, il a aussi écrit les psaumes qui sont les plus belles poésies jamais écrites. Donc dans la tête d'Epstein, il se dit, peut-être que je tiens de David, mais qu'est-ce qu'il me manque alors pour être comme lui aussi grand? C'est peut-être la grâce. Et c'est cette idée qui commence à le mener.
Et
je crois que ce paradoxe est au cœur de Forêt obscure.
Est-ce que, Nicole Cross, dans ce projet que l'on retrouve chez vous toujours de double, finalement, d'histoire en écho, avec souvent un homme et une femme et toutes ces possibilités que ça offre de raconter la vie à travers différentes temporalités, différentes expériences, une expérience américaine, une expérience du Shtetl, je pense à l'histoire de l'amour notamment. Est-ce que c'est une manière aussi de déjouer peut-être la ruse de la conscience, les artifices de justement cette conscience peut-être trop arrêtée à cette vie matérielle américaine que fuit le riche avocat Epstein qui part se dépouiller?
Si votre question porte sur pourquoi j'ai recours à ces histoires entrelacées, toujours une double histoire. Je crois que ça me permet d'être subtil et de raisonner davantage dans l'esprit du lecteur, ce à quoi je ne parviendrais pas si j'avais une seule histoire, un seul récit. Et j'aime entrelacer et juxtaposer des histoires, des personnages, des vies, des territoires géographiques. parce que ça crée des échos et des harmonies qui vont résonner dans l'esprit du lecteur, je crois. C'est très subtil, mais je crois que ça donne un sens authentique de sens par opposition à la tentation de prendre le lecteur par la main ou de le mettre en laisse même et de le guider comme ça. Moi, je veux que le lecteur ne soit pas si passif et qu'il ait un rôle à jouer pour s'approprier mon histoire.
Alors, ce procédé, vous l'avez creusé à travers plusieurs livres, plusieurs romans, et l'un d'entre eux, L'histoire de l'amour, a été aussi adapté au cinéma et dans un film réalisé par Radu Milelinu, sorti en 2016. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Get what you want, Pero, but we're not invisible, and we should celebrate that. Nazis.
Am Samstag?
Enjoy.
One sugar. Bastard.
It's not a big deal, sir.
I'm sorry, getting old so quickly.
It's okay, I'll bring you another one. There you go.
You're such a bastard. She's so sweet. What did the Germans ever do to you?
Dans le livre, on retrouve ce personnage de Léo Gourski. Et Léo Gourski, son histoire justement est croisée avec celui de la jeune Alma. Et on retrouve des points communs comme celui de la forêt, comme la présence d'œuvres artistiques, comme cette histoire du shtetl, comme cette histoire douloureuse de la Shoah, de livre en livre. Alors, est-ce que aussi le travail sur la mémoire est pour vous un travail qui peut être créatif?
Can that kind of work be creative as well, working on memory?
I mean, memory is such a rich subject because
la mémoire, c'est un sujet si riche.
Once you begin to think about it, it's really a creative act, isn't it?
Quand on y réfléchit, se mémoriser, c'est un acte créatif. Quand on se rappelle sa vie, bon, ce n'est jamais le rapport détaillé, véridique de la réalité. Là, justement, on devient le scénariste et on se la re-raconte différemment, sa vie, généralement. Mais cette possibilité me fascine. La manière dont on est à la fois les auteurs de nos propres vies et dont on n'est pas du tout les auteurs, mais est-ce que on prend les rênes consciemment de sa vie ou du récit de sa vie, ou est-ce qu'on autorise notre mémoire à nous guider dans une histoire qui serait parfois trop étroite pour nous, qui nous convient pas?
On faisait allusion, Nicole Cross, à James Joyce, à Henry James, à Hemingway. Comment on fait aussi avec la mémoire de tous ces grands écrivains qui nous ont marqués? Vous avez été l'élève du poète russe Joseph Brodsky. Comment est-ce qu'on fait avec cet héritage-là en tant qu'écrivain américain?
Je suis pas vraiment conscience de cet héritage. Hormis pour le côté inspiration. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir trop conscience de tout ce qui nous a précédés, de nos illustres prédécesseurs. Sinon, on se bloque toute possibilité de recréer, d'imaginer notre individualité, notre liberté. Donc je crois qu'en un sens, quand j'écris, je me mets en mode solo, je suis toute seule et ce n'est que lorsque j'émerge de mon bureau que je m'autorise à éprouver, ressentir d'autres choses et à les laisser rentrer de nouveau.
Nicole Cross, dans Forêt obscure, Nicole, le personnage de l'écrivain est face à une angoisse de la page blanche importante, une panne d'écriture, et la créativité apparaît comme un processus extrêmement douloureux à certains égards, notamment parce qu'il y a une sorte de mission qui l'accompagne. Alors là, il y a la mission d'écrire une autre histoire liée à Kafka, et il y a cette idée qu'il y aurait quelque chose justement à accomplir en tant qu'écrivain. Alors est-ce que c'est la même chose que ce bilan qu'elle fait sur sa propre vie, sur l'amour, sur le mariage? Il y a une mission toujours à accomplir.
No, I mean, I think at its best that writing is offers you possibility.
Je crois que l'écriture vous ouvre des possibles et à chaque fois qu'il y a un possible qui s'ouvre, il s'accompagne d'angoisse parce qu'il faut faire un choix. Avec la toute première phrase d'un livre, dès qu'on a choisi cette première phrase, on élimine des myriades d'autres possibilités sur le comment être, comment penser. On fait un choix. Et pourtant, avec chaque phrase qui suit, vous allez bâtir un monde, bâtir un champ de possibles. Et vous choisissez une vie, vous élargissez votre conscience, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et je ne crois pas qu'aucun écrivain soit inconscient de cela. On le sait tous, à un niveau ou à un autre. Donc les deux choses coexistent. Ce paradoxe, une liberté infinie et en même temps l'angoisse, l'anxiété qui accompagne cette immense liberté.
Dans ce livre, Nicole Cross, vous poursuivez votre réflexion aussi sur le mariage, sur l'amour et sur les conventions sociales qui accompagnent cette condition-là, la libération qu'a pu être aussi le divorce. Qu'est-ce que, justement, ça dit de la libération nécessaire pour devenir ce que l'on est, d'un projet individuel, justement, dans lequel on se dégage aussi de sa culture, du monde dont on est issu, de sa propre langue et de toutes ces barrières?
I mean, look, I think everybody is different, and to some people,
oui, chaque individu est singulier. Et chez certains, enfin, on n'a pas tous, on n'éprouve pas tous le même désir de changement. Mais tous les humains font partie de ce large spectre qui va de la sûreté, d'abord on aspire et on a besoin de la sécurité, et à l'autre extrémité de ce spectre, il y a ce qui est écrit en nous, la connaissance qu'on a qu'en tant qu'espèce, on est là sur Terre pour évoluer. Je me rappelle un jour, mon fils, je l'amenais à l'école et il me dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas envie d'être explorateur ou aventurier? Et on a eu une discussion là-dessus. Et c'est vrai, non seulement nous sommes tous différents, mais en plus, nous sommes différents selon les moments de nos vies. Parfois, on aspire au confort, de la stabilité, de ce qui est sûr et stable, tandis qu'à d'autres moments, on a envie de faire un saut dans l'inconnu. On a envie de se changer. Voilà, on change et nous sommes tous différents et on a des cycles différents dans la vie.
Nicole et Jules Epstein, ils sont tous les deux des personnages en crise, une crise que l'on retrouve, des crises que l'on retrouve dans chacun de vos livres. Est-ce que vous imaginez votre vie séquencée comme ça, à savoir chaque livre est l'objet de crises, peut-être de crises au pluriel?
No, I don't think of it like that at all.
Ah non.
En tant qu'écrivain, je parle.
As a writer. Non, pas du tout.
Well, just as we said that a novel, one of the fundamental ingredients of a novel.
Enfin, on disait que un des ingrédients essentiels du roman, c'est que les personnages vivent un changement, une transformation. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un véritable déclic pour que ce changement soit nécessaire. Et je ne sais pas si on peut l'appeler une crise systématiquement, mais en tout cas, c'est une prise de conscience et qui a des conséquences assez dramatiques. La question, c'est comment réagir à cette révélation.
Je vous propose d'écouter le psychanalyste et écrivain Stephen Sonnenbond. C'était dans un entretien fait par le journaliste Ed Medina en mai 2010.
Tout ce qu'un écrivain écrit est autobiographique. La seule manière que nous ayons pour écrire à l'arrivée, ce n'est jamais que la nôtre, c'est ce qui vient de notre propre vie. Quelque chose dans le processus d'écriture, dans la mise en forme artistique, magnifie cette matière, la dramatise. Jusqu'à ce qu'elle devienne étrangère.
Homegrown, I mean, it grows up out of yourself, and I think that's all that people are interested. I mean, something.
La matière, c'est donc quelque chose qui pousse, si j'ose dire, dans mon propre jardin, qui grandit à l'intérieur de moi-même. Et si cette matière ne m'est pas authentique, le lecteur s'en rendra compte inconsciemment et tout semblera factice. De là vient la nécessité de l'autobiographie.
Est-ce que vous êtes d'accord, Nicole Cross, avec ce que vient de dire Stephenson Bond? C'est le livre dans lequel peut-être il y a le plus d'éléments qui semblent se rapprocher d'une forme d'autobiographie, puisqu'il y a ce prénom de Nicole que l'on retrouve, il y a cette condition d'écrivain que l'on retrouve aussi. Est-ce que vous pensez qu'effectivement l'autobiographie, l'autofiction, elle est nécessaire, en tout cas comme matière première à l'écriture?
Je me dis simplement qu'on n'a qu'une seule source à laquelle puiser pour écrire, et c'est la source de nos souvenirs, de nos expériences et de notre regard particulier, celui qu'on pose sur l'univers, le nôtre. Et on ne peut puiser qu'à cette source-là. Après ce qu'on en fait, bien sûr, on mélange toutes ces matières premières dans le laboratoire de notre imaginaire. Et idéalement, les écrivains ont une imagination qui va vite, qui fuse. Et quand on mélange tous ces ingrédients, on ne sait jamais trop ce qui va en ressortir. Je crois que c'est quelque chose de très mystérieux, ce procédé. Et il n'y a aucun moyen de mesurer, enfin, ou de quantifier le pourcentage de ce qui sort de tout cela, relève de l'autobiographie, relève de l'imagination. Mais peut-être que je ne devrais pas être obsédée par cette question, parce que ce qu'on demande vraiment à l'art, à la littérature, ce n'est pas d'être le miroir de la réalité. Non, c'est une certaine version de la réalité qui nous permet de voir nos vies différemment, sous un jour différent.
Vous avez une manière de transformer les choses, c'est de donner une âme à certains objets que l'on retrouve. On retrouve les bureaux, on retrouve des machines à écrire, on retrouve des tableaux d'art, on retrouve certains lieux, En Gedi, Israël, des forêts.
Yes, we have our in the same way that Philip Roth had Newark, you know.
Oui, comme pour Philip Roth, c'était New York. On a vraiment nos points de référence en tant qu'écrivain, et on connaît ces sources secrètes qui nous sont propres, vers lesquelles on ne cesse de retourner et vers lesquelles on peut retourner sans cesse. Mais au bout d'un moment, on n'a plus envie de les utiliser. Je crois que c'est un processus très mystérieux. Mais certaines choses sont sans fond et on peut y revenir sans cesse et créer des visions nouvelles, alors que d'autres sources nous sont fermées en tant qu'écrivain, ne nous inspirent pas et sont fermées.
Il y a des sources qui vous inspirent et qui vous font rire en même temps, Nicole Cross, parce que vous, c'est ce Hilton, vous le qualifiez vous-même d'un Hilton très moche.
An ugly piece of work.
But the Hilton was a fascination for me.
Oui, mais ce Hilton, il me fascinait.
Because it speaks to this conversation that we're having now, which is to say,
d'ailleurs, il s'inscrit très bien dans cette discussion qu'on est en train d'avoir. C'est une réalité qui s'impose complètement. Et je ne peux pas imaginer un bâtiment qui soit plus imposant. Tout le geste architectural est imposant. Il va décider de la manière dont on se déplace, dont on vit. Mais cet hôtel, bon, c'est un énorme bloc rectangulaire. Il est posé sur un petit surplomb au bord de la mer, près de Tel Aviv. Il est en effet très moche. Mais dans l'esprit de mon personnage, au contraire, il est très précieux, ce bâtiment, car il recèle le souvenir de certains moments dans sa vie, des moments où la réalité se dissout et vous ouvre un champ des possibles. Cet hôtel, c'est presque un portail qui va lui permettre de pénétrer dans une autre réalité ou dans un autre monde. Donc ce bloc de béton barré de fenêtres,
laws that are, that will be imposed on us, that we won't, like a prison of how we have to think and move.
Imposant, qui peut paraître comme quelque chose qui nous fiche, qui nous emprisonne, mais dans l'esprit de mon personnage, c'est exactement l'autre chose. C'est la possibilité d'une porte qui s'ouvre sur un autre monde.
Forêt obscure, c'est le titre du roman de Nicole Cross qui paraît aujourd'hui aux éditions de l'Olivier. Elle s'entretenait avec Maëlys Bessery et ses propos étaient traduits par Eve Dare. Merci à Oriane Delacroix, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Anne Toscan-Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Lise Combe et Marie Placet étaient à la réalisation aujourd'hui et au son, c'était Anthony Thomasson. Pour réécouter la grande table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.